Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. C'est le jour où jamais pour l'avouer, j'éprouve une passion sans limite pour Alexandre Dumas. J'ai lu et relu 1000 fois Les Mousquetaires, Monte Cristo, La Reine Margot. Je continue à le relire et je continuerai jusqu'à mon dernier souffle. C'est aussi le moment où jamais de vous confier à quel point j'aime Eugène Delacroix, en particulier pour ce tableau format géant, la mort de Sardanapale, représentant le roi assyrien, mollement étendu sur sa couche et faisant égorger sa suite, page, favorite, veau, vache, cochon, couvée, pour que l'ennemi qui l'assiège ne puisse s'en emparer. Tableau que j'ai fait reproduire au plafond de ma chambre à coucher et sous lequel je m'endors mollement étendu moi aussi en rêvant à ce destin qui aurait pu être le mien si seulement j'avais adhéré à cette théorie du cycle des réincarnations bouddhiques, plus connue sous le nom de roue de samsara, qui n'est pas de la roupie de Sansonnet. Enfin, c'est le moment d'avouer ma passion pour Catherine Meurice, une dessinatrice dont les albums ne cessent de m'enchanter et de m'émerveiller les uns après les autres. C'est donc jour de fête aujourd'hui, puisque nous recevons Catherine Meurice qui vient nous parler de cet album qu'elle consacre à Delacroix et dans lequel elle illustre les causeries d'Alexandre Dumas sur Delacroix. C'est ce que les visagistes capilliculteurs, les coiffeurs quoi, appellent une boucle qui se boucle bien. Catherine Meurice est l'invitée de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Paune.
Bonjour Catherine Meurice.
Bonjour Antoine.
Une boucle qui se boucle bien, vous êtes d'accord avec Jean-Louis David et moi-même?
Ah oui, vraiment, je crois que c'était Jacques de Sange, mais non, d'accord, c'est David.
Les deux l'ont dit. Oui. À mes côtés, Marou de Sansonnet.
Oh,
bonjour Charline.
Bonjour Antoine. Bonjour, bonjour Catherine.
Et au menu de Pop, 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 un auteur dessinateur de BD suisse, Alex Baladi, qui sera avec nous en fin d'émission. Beaucoup de BD donc dans ce Pop, pop, pop aujourd'hui. Mais avant ça, Catherine Meurice, ici, il existe une question obligée, une question encore plus mythique et pop qu'un des sons mythiquement pop que vous choisissez évoquant pour vous la pop culture. Et cette question, c'est... Catherine Meurice, pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, bah, attendez, parce que pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses catherinisées, meuriciennes et même bénétisantes. Et parmi mes préférées, il y a celle de votre ami et confrère Luz.
Pour moi, la pop culture, c'est un peu c'est plutôt une espèce de chaudron magique dans laquelle tu plonges quand t'es tout petit. Mmh. Et après, t'as le droit de piocher le pire comme le meilleur.
Chaudron magique. Et pour vous, Catherine?
Oui, bah, tout ce que dit Luz est intelligent, j'acquiesce. Oui, je suis d'accord, oui. Pour moi, la pop culture, bah, ce serait plutôt la BD, hein, tant qu'on est là, on va en parler. Et pas que les images, les cases pop qui ont été reprises par certains peintres de la pop culture, hein, je ne citerai personne, mais c'est c'est Astérix, c'est Boule et Bill, c'est Gottlieb, c'est tout ça, ouais, c'est des lectures d'enfance.
Une jeune femme lisant Astérix dans une barque, ça vous dit quelque chose?
Ça me dit quelque chose, je crois que c'est l'affiche, une des affiches réalisées pour le prochain festival de bande dessinée d'Angoulême.
Que vous avez dessiné.
Ouais.
Bah oui, le chaudron de Luz, Astérix, tout se rejoint, c'est à nouveau la boucle qui se boucle. C'est magnifique cette émission.
Vous êtes tombé dedans, non?
Bah oui, nous sommes tous tombés dedans. Alors la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop. Juste après, un featuring pop, Nekfeu, Vanessa Paradis, dans l'univers.
Dans l'univers, il y a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as par le vice, mais c'est toi que je veux.
Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Pourtant dans l'univers y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Et même si notre amour raté devait renaître demain,
Elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers y'a des milliards de vies sur terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sépare.
Nos cœurs unis par cette danse que ta lumière peut apprendre à mon ombre. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom.
Dans l'univers de Nekfeu et Vanessa Paradis, cet extrait des étoiles vagabondes. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une dessinatrice qui a commencé à dessiner enfant en faisant des pastiches du journal de...
Mickey.
Mais qui est cette fan de la célèbre petite souris? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, votre pop portrait, Catherine, c'est votre portrait bien sûr, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et il est signé Charline Sansonnet, Sansonnet, Sansonnet.
Oh là là, non, c'est pas possible du tout. Et surtout, c'est incompréhensible pour quiconque a raté le début de l'émission,
ben,
Antoine.
Il y a des podcasts, bon. C'est pour ça.
Aujourd'hui, une invitée qui, lors de sa précédente visite, était venue auréolée d'une drôle de légèreté, celle de l'enfance, des grands espaces. Une invitée au bucolisme concerné et merveilleusement racontée et dessinée, passionnée par les vieux caca animaliers dont elle voulait faire un musée. Comme elle a de la suite dans les idées, c'est d'un autre genre de musée dont elle vient nous parler. Enfin, d'art en tout cas, puisque parmi ses sujets de prédilection, grande figure, écriture et peinture la préoccupe et l'agite, artistiquement j'entends. Et comme dans Mes Hommes de Lettres ou dans Le Pont des Arts, ou encore dans Moderne Olympia, dans lequel elle donnait déjà vie aux toiles d'Orsay. Puisqu'on parle d'art, précisons que son livre La Légèreté entre directement dans la catégorie réservée aux chefs-d'œuvre, et il fallait bien ça, de la beauté en grande quantité pour penser l'après Charlie, cette rédaction dont elle a fait partie. Grande figure, écriture et peinture, la grande trilogie mauricienne est de nouveau au programme aujourd'hui. De l'art alors, et pas de confiture pour les cochons.
Merci. Bravo, Charline. Merci. Alors attendez, avant d'aller plus loin, où en est-on avec cette histoire de musée de vieux caca animalier?
Projet d'enfant.
C'est en cours. Il y a une rétrospective à Angoulême. On parlait justement du festival Angoulême où il va y avoir une expo. Non, ça c'est vrai. Hein, vraiment y avoir une expo, mais... Voilà, on négocie les bouses. Enfin, en fait, l'assurance, ça coûte très cher de déplacer les bouses séchées du 19e siècle.
Vous allez partout à Angoulême?
Oui. Oui, il se passe plein de choses super là.
C'est ce qu'on appelle une consécration ou pas dans la Belgique?
Non.
Un peu quand même.
C'est un mot qui me fait peur. Mais c'est le résultat de beaucoup de travail. Mmh. Non, je suis très contente. Vraiment, il y a des expos, des bouquins, des projets. C'est très chouette.
Ouais. C'est l'année Catherine Meurice. Et là, on parle de début 2020.
Oui. Alors, là, on est en 2019.
On est toujours en 2019. Alors, Catherine Meurice, sera-t-il question de vieux caca de musée dans la séquence qui va suivre? Le suspense est absolument intolérable. Pour le savoir, passons à votre popliste. Nous vous avons demandé de choisir, Catherine Meurice, un livre, un film, une musique, une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur Martin Eden de Jack London, paru en 1909. Et je vous félicite de ce choix. Décidément, nous devrions lire ensemble et croiser nos goûts peut-être. Charline, rompez le charme de cette rom-com naissante et rappelez-nous de quoi parle ce chef-d'œuvre.
Qu'est-ce qui vous arrive? Martin Eden est un jeune marin issu des quartiers pauvres. Pour conquérir une jeune bourgeoise dont il s'est vaguement épris, il décide de se cultiver et se met à écrire jusqu'à devenir un auteur à succès, mais l'embourgeoisement ne lui réussit pas. Alors allez hop, on y va pour l'aventure, destination les îles du Pacifique.
Catherine, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes s'il vous plaît?
C'était une belle chose et elle l'attira irrésistiblement.
Il oublia sa démarche maladroite, s'approcha davantage du tableau, et toute beauté disparut de la toile. Ahuri, il observa ce qui lui semblait à présent un barbouillage quelconque, puis recula. Et la magique splendeur reparut. « C'est un trompe-l'œil, se dit-il, et il n'y pensa plus. Pourtant, il ressentit un peu d'indignation. En effet, comment tant de beauté pouvait-elle être sacrifiée à un trompe-l'œil ? »
Extrait de Martin Eden de Jack London, lu par Catherine Meurice, c'est son choix littéraire. Alors pourquoi ce Jack London-là, plutôt que, je ne sais pas moi, Jack Lang, Jack l'éventreur ou Jack et Michel ?
Pourquoi ? Parce que Martin Eden, bon, je n'ai pas envie de répondre à cette petite...
Ah bon ? Comment ça vous avez pas envie de
répondre ? Non, Martin Eden, je l'ai lu assez tard. Et c'est pas grave, mais j'ai été vraiment éblouie, notamment la scène d'ouverture, et je trouve absolument magnifique, très cinématographique. Martin Eden pénètre dans cet environnement bourgeois, même dans cette maison bourgeoise, et on a l'impression, nous lecteurs, d'être sur son épaule ou juste derrière lui. C'est comme un long plan séquence où on voit Martin Eden de dos qui arrive dans ses pièces et qui a une démarche chaloupée, qui vient vraiment d'un milieu prolo, il est marin, etc. Et qui observe et il voit défiler devant lui, il découvre en fait ce monde bourgeois. Je trouve cette scène absolument extraordinaire, elle m'a happée et le roman est bouleversant. Et j'ai vu récemment le film qui a été fait.
Et alors ?
Et j'ai trouvé très 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 beau, très singulier. Ça a été transposé à Naples, à une époque, on ne sait pas trop si c'est avant la guerre, après. C'est pas grave, c'est volontairement flou. Et c'est dans une Italie, il y a un Naples prolétaire aussi. C'est éblouissant, vraiment. Il y a un mélange d'archives, etc. Très audacieux, très très beau. Oui.
Et c'est un film italien, hein, si je ne m'abuse.
Oui,
c'est sous. Oui. Voilà. Le nom du réalisateur.
Le nom m'échappe.
Très bien. On va enchaîner. Hein.
Oui, pardon.
Pour le film, justement, Catherine, vous avez choisi le papy le plus célèbre de la pop culture, celui qui fait de la résistance, le papy de Jean-Marie Poiret, sorti en 83. Charline, deux générations y ont succombé, mais vous, avez-vous résisté ?
Nine, R de Cône. À la suite de la défaite des armées françaises, la famille Bourdelle voit très vite son hôtel particulier investi par les forces allemandes. Il se retrouve logé à la cave, mais leur fils Guy Hubert est en fait super résistant.
Bonjour. Si au cinéma vous n'êtes pas effrayé par une époque troublée...
Assurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française.
Des personnages ambigus, des passions exacerbées.
Oh. Crétinus, flûte, fermez-la.
Si tout cela ne vous fait pas peur...
Ne restons pas là, c'est dangereux.
Alors vous vibrerez avec la famille Bourdelle, prise dans la tourmente de l'occupation allemande et qui fait front avec un courage exemplaire.
Mais qu'est-ce que vous faites, papy ?
Papy fait de la résistance.
Mais qu'est-ce que vous faites là ?
Le film qui a coûté plus cher que le débarquement. Demandez à votre pharmacien ce qu'il en pense.
Alors, rien de personnel dans ma question, Catherine Meurice, mais vous aimez bien les papys ?
J'aime celui-là. J'aime ce film, vous pouvez pas savoir, mais d'entendre les voix là, de Junio, Maillan. Ce film m'a fait pleurer de rire, enfant, et encore aujourd'hui, je l'aime.
T'es partie de ces films dont le charme continue à opérer.
Ah oui, et c'est drôle, parce que là, en entendant la bande-son, on a l'impression de lire une bande dessinée. C'est des gags, des onomatopées, c'est des voix comme ça, outrées. Et quels acteurs, quoi, vraiment, Lavanant, Maillan, Carmet, c'est vraiment une comédie comme je les aime, généreuse, loufoque, burlesque, et puis alors ce pastiche à la fin, cette fausse interview à la fin du film, et puis la musique, enfant, mais je chantonnais le générique de fin qui me faisait, me bouleversait, quoi, une sorte d'opéra très, 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 je sais pas quoi d'ailleurs, c'était génial. Et la scène, la fameuse scène de « Je n'ai pas changé », enfin bref, je chante très mal, mais vraiment ce film est une perle, oui.
Bon, vous êtes coquille. À propos de film, le nom du réalisateur italien, Charline, on l'a retrouvé ?
Toujours pas
très bien, c'est pas grave, on continue. Alors pour la série, attention, vous faites un choix surprenant, Catherine Meurice, en choisissant ça. Cat's Eyes, série créée par Tsukasa Ojo, diffusée à partir de 86 en France. Charlie, j'imagine que les yeux de ce chat sont bridés puisqu'il est nippon, n'est-ce pas ?
Oui, Antoine. Cat's Eyes, c'est le nom sous lequel Tam Cilia et Alex Chamad signent leurs méfaits puisqu'elles tiennent un café le jour mais cambriolent la nuit. Mais attention, uniquement des pièces ayant appartenu à leur père, un artiste allemand du nom de Michael Heinz, disparu sans laisser de traces plusieurs années auparavant. Elles sont poursuivies par un jeune complètement obsédé, Quentin Chapuis, qui n'est autre que le fiancé de Tam, mais qui ne sait rien de ses activités, c'est dire si c'est un fin limier.
Catherine Meurice, cette série, est-ce que, comme ces trois vives panthères, qui en un éclair savent bondir sans un bruit, sœurs et solidaires sur terre ou en l'air, vous relevez tous les défis pareil?
Ah oui. Et surtout, je voulais avoir les mêmes collants.
La combinaison.
La combi, ben ouais.
Ça le se même trouve, legging.
J'ai jamais trouvé, non. Non. Un peu prune, foncé, là.
Ah, donc ouais. Vous étiez Cilia?
Oui, exactement. J'étais Cilia. Ouais. Oui.
Moi, j'étais Alex.
Ah voilà. Oui. Et pourtant j'étais coiffée comme Tam.
Ouais,
là,
c'est étonnant.
Que les auditeurs ne nous jugent pas.
Voilà,
je suis un peu perdu personnellement. Mais bon.
Oui oui et c'est non c'était très bien fait hein, et surtout bon alors déjà l'art la peinture déjà présente hein, dans mon enfance. J'avais pas du tout
très précoce.
Voilà très très précoce.
Et le mystère.
Je peignais en regardant Cassas. Non c'est pas vrai. Des héroïnes quand même important. Trois nanas qui se laissaient pas faire, qui avaient des personnalités bien, des caractères bien trempés. Donc un très bon dessin animé à voir, gamine, ouais.
Parfait. Charline, peut-être le nom du réalisateur
toujours pas,
du
non.
film italien
non,
Martin
non,
Eden.
C'est pas possible. Vous consultez mon téléphone, alors
non,
c'est interdit.
C'est pas grave. On continue. Alors, Catherine, terminons cette pop liste avec votre chanson culte, et cette chanson, c'est celle-ci.
Il y en a des routes, il y en a des plates, il y en a des fermes, il y en a des flasques. Il y en a des grosses, des petites carrées, il y en a pour s'asseoir, d'autres pour s'amuser. Il y en a des fesses, des déprimés, et il y en a de la haute société.
Les fesses des frères Jacques, sortis en 75. Alors, je dois vous avouer, Catherine, que nous sommes plutôt habitués ici au Bowie, Prince, hein. Mais pourquoi pas ces fesses des frères Jacques? Enfin, expliquez-nous quand même.
C'est la chanson qui a bercé mon enfance.
Elle a dû être bien.
Et voilà. Et ben, écoutez, mec, l'expo sur les bouses séchées, la boucle est bouclée, comme dirait voilà, toujours Jacques Demy de Sange, je sais pas quoi. Non, les frères Jacques, j'ai vraiment grandi avec ça. Hein. Mes parents écoutaient Brassens et ma sœur et moi, on écoutait les frères Jacques.
Plutôt les fesses que la confiture, alors.
Non, tout. Et il y a une chanson aussi formidable pour rester un peu dans le olé olé, mais qui s'appelle les 300 millions. Mmh. Et les frères Jacques chantent, ce sont des spermatozoïdes qui racontent leur voyage vers l'ovule. C'est absolument hilarant. Et les frères Jacques, j'aime leur voix, j'aime leur tenue. On est encore dans le collant. Ils étaient en collant,
ouais.
Comme Cat's Eyes.
Ouais.
Voilà. Non, tout ça est très, très, très cohérent. Mmh. Et j'avais l'impression d'avoir quatre...
Donc vous étiez plutôt Jean-Claude ou Robert dans les frères Jacques?
Dans les frères Jacques, moi j'aimais le petit jaune, la moustache, qui avait toujours une petite voix.
Et vous, Charlie, vous avez fait rire comme ça moi.
Quoi, non mais j'ai le droit de rire quand même.
Un des frères Turel, je crois. Et il avait une petite voix, une voix de bande dessinée, et il ramenait sa fraise parfois. Dans les... ça m'a fait pleurer de rire aussi, ça, enfant. Ouais.
Bien, nous y sommes. Charline, le nom du réalisateur de Martin Eden, toujours
non.
Pas. Ok, j'oublie. Alors, je résume Martin Eden, le livre, Papy fait de la résistance, Cat's Eye, les fesses des frères Jacques, je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture, et ça nous donne ça.
Fermez-la!
Qu'est-ce que vous faites, papy?
Ça va bien 5 minutes, mais le monde en était écœuré des fesses!
Demandez à votre pharmacien ce qu'il en pense.
Il oublia sa démarche maladroite et toute beauté disparut de la toile.
Papy fait de la résistance.
Mais qu'est-ce que vous faites là?
Le film qui a coûté plus cher que le débarquement.
On est bien dans la tête de Catherine Meurice, non? Ah, n'êtes pas toute seule.
Non, en plus je ris de ma... Je voyage dans mon propre cerveau et je ris de... Enfin, c'est terrible de rire.
Il
de...
y a du monde là-dedans.
Oui, il y a du monde, oui.
Il y a beaucoup de monde.
Mais
dedans.
C'est pour ça que je fais de la bande dessinée, j'essaie d'expulser tout ça, le papier.
En tout cas, c'est la première fois que je mettais les fesses dans un mixeur.
Et c'est surtout la première fois que vous prononcez la phrase, alors plutôt les fesses que la confiture.
Oui, c'est vrai. Ah, bravo, Charline.
Ouais.
Bravo.
C'est pour ça que je ris depuis tout à l'heure.
Alors, Catherine Meurice, dans une émission de pop culture, quand on vous reçoit, on ne peut pas ne pas passer le son qui vous évoque la pop culture. Alors, mettez votre casquette sur le côté, sortez votre Kodak pour prendre des photos et montez dans mon taxi jaune direction Bel Air avec le prince Will Smith.
Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. In West Philadelphia, born and raised, on the playground is where I spend most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cooling, all shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, "You're moving with your auntie and uncle in Bel-Air." I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my Walkman on and said, "I might as well kick it." First class, yo, this is bad. Drinking orange juice out of a champagne glass. Is this what the people of Bel-Air living like? This might be alright. But wait, I hear the prissy bourgeois and all that. Is this the type of place that they just send this cool cat? I don't think so. I see when I get there. I hope they're prepared for the Prince of Bel-Air. The plane landed and when I came out, there was a dude looked like a cop standing there with my name out. I ain't trying to get arrested yet, I just got here. I sprang with the quickness like lightning disappeared. I whistled for a cab and when it came near, the license plate said fresh and it had dice in the mirror. If anything, I could say that this cab was rare, but I thought, man, forget it, yo, home's the Bel-Air. I pulled up to the house about 7 or 8 and I yelled to the cabbie, "Yo, home, smell you later." Looked at my kingdom, I was finally there to sit on my throne as the Prince of Bel-Air.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine Decaune.
Et Charline Roux. Catherine Deneuve, Ringer, Laborde, Barma et Liliane sont les premiers résultats qui tombent quand je tape Catherine sur Google. Mais aujourd'hui, nous sommes avec la dessinatrice Catherine Meurice. Catherine Meurice, je prends ma DeLorean. Voilà, pour retourner au 19e siècle, parler de Delacroix avec vous et lui. Car vous venez nous présenter Delacroix, votre nouvel album édité chez Dargo. Alors, d'abord, disons-le, vous avez de la suite dans les idées, Catherine, puisque déjà en 2004, vous aviez publié un album autour de Dumas et de la Croix. Pourquoi y revenir 15 ans plus tard ?
Cet album, enfin, ce premier livre, c'était vraiment mon tout premier livre. C'était mon diplôme de fin d'études aux Arts Déco, qui avait été publié dans la foulée, publié en 2005, l'année où j'entrais à Charlie Hebdo. Et ce livre s'est un petit peu perdu dans la nature pour des raisons, X raisons, bon. Et 15 ans après, j'ai décidé de le reprendre, de le mettre en couleur, d'en faire vraiment un nouveau livre. Et c'était une façon de, bon, déjà d'aller vers la peinture, parce que j'avais vraiment envie de peindre et d'aller vers la couleur, d'oser la peinture. Et c'était aussi une façon de, plus de rassembler mes petits. Ça, je crois que c'est un comportement post-Charlie, enfin post-attentat contre Charlie, où je voulais plus rien perdre. Donc comme j'avais déjà tant perdu en 2015, il y a ça déjà dans la légèreté, les grands espaces, hein, c'est essayer de rassembler autour de soi le souvenir des disparus, les vivants, la famille, les proches, etc. Et là, je voulais que ce livre qui avait été un peu abandonné il y a 15 ans, renaisse, complètement changé. C'est vraiment une renaissance, c'est même une naissance. Je voulais récupérer ça pour ne pas... Je voulais pas que ce livre soit abandonné, en fait. Je voulais le reprendre. Et donc, chez mon éditeur Dargo, qui m'a donné les moyens de faire un très beau livre. C'est-à-dire que le papier est choisi avec soin. Et j'ai repris avec joie ce texte de Dumas qui est formidable. Ouais. Et je crois aussi que ça me faisait du bien de faire une pause dans le récit autobiographique, parce que dans la légèreté des grands espaces, donc je me racontais, mais bon, la légèreté, c'était un passage obligé, c'était pas calculé, il fallait absolument que je raconte, pour essayer de tenir debout. Les grands espaces, c'était un peu dans la continuité, c'est-à-dire je racontais mon enfance. Et en fait, ces deux albums étaient plus ou moins thérapeutiques. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit une fois qu'ils ont été publiés. Ils étaient associés à la résilience. Là, je fais une pause, je laisse Dumas parler. Moi, ça me fait du bien de me taire un petit peu. Comme ça, si jamais je reprends un jour un récit autobiographique, je veux que ce jeune soit dissocié de la résilience. Voilà, je veux plus que ce soit collé. Donc voilà, je fais une petite pause avec Dumas.
Quitte à laisser quelqu'un parler à votre place, autant que ce soit Dumas.
Oui. Alors,
est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'étrange, voire de vertigineux, de lire sur la couverture de son ouvrage Alexandre Dumas, Catherine Meurice, de la Croix?
Non, ça me faisait beaucoup rire. Et j'ai l'impression, je prends beaucoup de liberté avec les artistes et les écrivains depuis longtemps, depuis Mes Hommes de Lettres, Le Pont des Arts, Moderne Olympia, etc. Et même La Légèreté, où je rentrais dans des tableaux de Roscoe ou autres. Non, je crois que je m'entoure de peintres et d'écrivains depuis longtemps, et tout en les respectant et en les aimant, en déclarant ma flamme à tous ces grands artistes, je les mets à notre niveau, en fait. Je les fais descendre un peu leur piédestal et bon, toute proportion gardée, Dumas fait un peu ça, alors avec beaucoup plus de, enfin, avec un talent immense, une verve extraordinaire, mais quand il fait ce genre de causerie, parce qu'au départ ce texte sur Delacroix c'était un discours, une causerie qu'il a faite devant un public qui est entouré d'ailleurs des œuvres de Delacroix, c'était un an après la mort du peintre. Dumas nous parle de Delacroix d'une façon très familière, avec beaucoup de bonhomie. C'est pas un historien d'art.
Oui, ça, on sent le ton empesé.
Exactement. C'est pas, voilà, il y a un ton léger et il prend quelques libertés avec l'histoire. Il reste quand même précis. Les faits sont précis. Les anecdotes sont réelles. Mais il a pas la patience d'un érudit, d'un fin connaisseur, d'un chercheur. Et il va du côté de la passion, de l'amitié. En fait, c'est un livre d'amitié. Ouais. Et une fois de plus, toute proportion gardée, j'ai l'impression de procéder un petit peu comme ça depuis longtemps dans mes BD. Donc les musées ne me font pas peur, les peintres ne font pas peur. Mettre mon nom à côté de Dumas, je trouve que c'est plutôt un petit gag qui me fait sourire. J'espère que personne ne m'en voudra.
Certainement pas lui, en tout cas.
Ah non.
Nous parlons de pop culture dans Pop 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 et il me semble que le mash-up de ces trois noms, Dumas, Delacroix, Meurice, résume absolument tout. C'est-à-dire vous faites comme Dumas avec la grande histoire, vous vous emparez de leur histoire à eux pour en faire un bel enfant. Sommes d'accord ?
Oui. Ben merci, oui, l'enfant n'est pas trop raté, c'est ça ?
Non, pas du tout, non.
Je suis contente, alors.
J'adopte.
Mais surtout, il n'est pas impressionnant, même quand on n'a pas une grande culture, ce qui est mon cas, sur Delacroix comme sur Dumas, au grand regret d'Antoine. Il y a quelque chose qui se dégage de votre ouvrage comme quelque chose à la fois d'hyper instru, mais de super ludique. Et du coup, c'est extrêmement plaisant, c'est pas intimidant.
Oui, mais j'ai toujours abordé les peintres comme ça. Je crois que je le racontais dans les grands espaces où j'ai grandi à la campagne. Et puis un jour, on va à Paris avec mes parents et ma sœur, on visite le Louvre. Et puis j'ai eu l'impression que c'était ma deuxième maison parce que les murs étaient aussi épais. Et puis sur les cimaises, il y avait des tableaux qui représentaient des jardins et la nature. Puis j'avais la même chose dans Poitou. et ça m'a pas impressionnée. J'ai toujours trouvé que les musées étaient des refuges et des lieux de vie. Et la grande littérature et la grande peinture, pour moi, c'est ça. C'est vraiment ce sont des refuges et des endroits extrêmement intéressants, vivants. Donc, je l'aborde sans peur et avec beaucoup de plaisir. Et quand j'ai peint cet album de La Croix, parce que vraiment je me suis mise à peindre, alors pas comme un peintre qui peint sur chevalet, mais c'est-à-dire que je suis sortie vraiment de la page de la bande dessinée où on reste un petit peu dans ces cases, on est voûté sur sa page. Non, là j'ai fait mes encres et mes aquarelles et mes gouaches debout sur ma table à dessin, devant ma table à dessin. Et ça déjà c'était une posture nouvelle et je crois que j'avais besoin aussi de ressentir tout mon corps qui dessinait et qui suivait des yeux Delacroix, parce que je crois aussi que dans ce livre c'est que je propose un Delacroix, enfin c'est Dumas qui le propose, moi je le mets en image. Et par la même occasion, j'apprends en regardant Delacroix, je continue d'apprendre à dessiner et d'apprendre à voir comment sont les couleurs, comment ça s'agence. Donc c'est tout bénef.
J'insiste un instant là-dessus, Catherine Meurice. Vous l'avez prouvé depuis longtemps, vous ne faites pas partie de ceux qui considèrent la littérature et la peinture avec la dévotion poussiéreuse des académiciens ou des universitaires. C'est une matière vivante avec laquelle vous aimez vous amuser. Est-ce que c'est ça la bonne attitude vis-à-vis de la culture? Ouvrir les fenêtres, la rendre accessible, la bousculer, la faire descendre de son piédestal?
Alors, est-ce que c'est la bonne attitude? Je sais pas. En tout cas, c'est
la réponse est oui. Hein, c'est...
Oui. Non, je dis... Oui, alors, d'accord. Faites comme moi, tous. non, mais c'est sûr que... Alors après, quand vous parlez des académiciens, certes, mais j'ai toujours eu de bonnes surprises quand j'ai publié mes albums, donc ceux qui parlent de peinture et de culture, et notamment Moderne Olympia, qui était une commande du musée d'Orsay. On m'avait dit, bon, tu as carte blanche, etc. Donc j'ai fait mon petit machin de mon côté. Donc c'est une comédie musicale à Orsay, où la peinture académique affronte la peinture qui s'annonce comme moderne, et tout le monde est plus ou moins à poil, machin. Enfin bon, bref. Et j'avais fait ça sans penser aux conservateurs, aux académiciens, surtout pas. Et j'avais fait ma petite cuisine. Et quand le livre est sorti, je me suis dit, bon, je vais peut-être me faire taper sur les doigts. Et pas du tout, j'étais très étonnée de voir que les conservateurs d'Orsay adoraient ce bouquin. Et c'est voilà, j'ai souvent rencontré des gens de musée qu'on imagine en effet poussiéreux avec une toile d'araignée sous le coude, pas du tout.
Ils m'entendent. J'ai pas dit des conservateurs, j'ai dit des académiciens.
Oui, c'est vrai, ne mélangeons pas tout.
Mais c'est très étonnant parce que vous avez un rapport à la littérature et à la peinture qui est assez proche de celui que nous on peut avoir à la pop culture, puisque le comte de Monte Cristo était votre Hartley-cœur à vif à vous en quelque sorte, hein, et votre crush s'appelait pas Drazic mais Edmond Dantès.
Ah oui.
Ça situe quand même déjà.
Ouais. Oui. Et Dantès était présent dans la famille. Enfin, c'est drôle parce que je crois que j'ai toujours abordé les bouquins, mais alors sans vraiment de manière tout à fait inconsciente. Mais les bouquins sont entrés dans ma vie de gamine. Bon, enfin tard. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je regardais surtout les images, je regardais les livres, je regardais la couverture, etc. Ma sœur, elle les lisait, puis elle me racontait ce qu'il y avait dedans. Puis 10 ans après, je les lisais. Mais par exemple, le Comte de Monte Cristo, il était présent dans toute la famille. Je me souviens que, alors moi, j'étais amoureuse d'Edmond Dantès, c'est sûr, hein, qui était lui-même.
On l'a tous été.
Hein. Voilà. Exactement, il était. Vous avez peut-être été amoureux de Mercedes,
non,
sa voiture,
Dantès aussi,
enfin
moi.
Sa oui. femme. Et je me souviens que, alors Dantès sauve tout le monde, voilà, venge tout le monde, etc. Et j'ai lu donc quand j'étais gamine à la campagne. Et je me souviens une fois, mes parents avaient retrouvé un pigeon, un soir d'orage, de pluie, de tempête à la campagne, hein, vraiment. Mon père, je crois, a trouvé un pigeon blanc immaculé sur le bord de la fenêtre de l'étable, etc. Et on s'est dit, ça c'est Edmond, c'est un signe. On s'est dit, c'est un signe de je sais pas quoi. On va l'appeler Edmond,
vous
comme Edmond Dantès.
Le pigeon Edmond.
Edmond.
D'accord.
Et c'était un peu, on s'amusait voilà à trouver. Ça je le raconte aussi dans les grands espaces. On s'amusait à trouver des symboles et des petites choses qui nous faisaient rire. Proust était présent. Il y avait un arbre qui s'appelait Swan. On allait du côté de chez Swan quand on allait cueillir des champignons au pied de cet arbre. Et Edmond, c'était le pigeon qui représentait, qui nous portait bonheur. Enfin, on croyait des petites choses comme ça. Donc on a toujours invité la littérature ou la peinture. Enfin, on a surtout beaucoup ri de tout. Ça, quoi.
Et ça vous fait un point commun avec Alexandre Dumas, parce que Dumas débordait d'humour, hein, ce qui n'était pas la caractéristique première de Lacroix, enfin, tout du moins dans son travail.
Ouais.
Il avait bien besoin de Lacroix, comme vous le faites, qu'on rajoute une touche de drôlerie pour le rendre encore un peu plus accessible.
Je crois que Delacroix n'avait besoin de rien. Si, qu'on achète ses tableaux, je crois, quand il était plus jeune.
Il n'a plus besoin de grand-chose.
Ouais.
Hein,
exactement. Mmh. non, c'est vrai que Dumas a de l'humour et Delacroix était grave et sérieux. Et c'est drôle parce qu'ils s'estimaient beaucoup. Ils étaient amis, ils ne se voyaient pas tous les jours non plus. Mais Dumas admirait Delacroix et on le lit là dans ce texte. Delacroix. Delacroix lisait de temps en temps Dumas et disait, bon, c'est sympathique, mais c'est un peu superficiel. Il trouvait que, bon, il y avait toujours du mélodrame. À un moment donné, dans son journal, il écrit, bon, j'ai lu je crois que c'est Bragelonne. Il y a des moments de mélodrame. On a envie de jeter le livre par la fenêtre. Et oui, on a l'impression que, voilà, l'humour de Dumas, ça coinçait. C'était pas son truc. Bah, lui, il aimait Dante, il aimait Byron, il aimait Voltaire, il aimait Fénelon, il aimait Racine. Dumas, lui, c'était d'abord un très bon dramaturge, très bon dialoguiste. Et il ramenait tout ça, tout ce qu'il avait appris dans le théâtre, donc en écoutant aussi les réactions du public, il ramenait ça dans ses romans et il s'arrangeait avec l'histoire parce qu'il fallait que les lecteurs le suivent. Delacroix, non, c'était autre chose.
Le mélange des deux, Delacroix, Dumas, avec Catherine Meurice, par-dessus tout ça, ça donne cet album Delacroix qui est une réussite. Faramineuse.
Oh là là, merci.
Oui, je vous le dis comme je le pense. Voilà, c'est édité chez Dargo. Et merci infiniment de nous avoir rendu visite aujourd'hui, Catherine.
Merci pour ce sourire. Oui, non, merci beaucoup, merci beaucoup. Non, c'est toujours très drôle. Vous me faites rire, Antoine.
Juste pour finir, le nom peut-être du réalisateur de.
Aucune idée. Si. Non, mais si, parce que c'est quand même pas. C'est Pietro Marcello.
Pietro Marcello.
Et l'acteur qui joue Martin Eden, c'est Luca Marinelli. Il est magnifique.
Et ben voilà,
magnifique.
Ouais. Comme disait Jacques Desange, la boucle est bouclée. Merci. Vous savez faire ça, Catherine? Ben oui, bien sûr qu'elle sait le faire, elle sait tout faire. C'est pour lancer les Pop News.
Une adaptation de Jack London au Cidé avec Harrison Ford, Karen Gillan et Omar Sy. Et un gros toutou, c'est reparti pour l'appel de la forêt. L'histoire de Buck, un chien au grand cœur dont la vie domestique bascule lorsqu'il est arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages pendant la ruée vers l'or dans les années 1890.
Je ne sais pas d'où tu viens, mais je sais où tu es aujourd'hui. Bienvenue au bout du monde.
On va lui laisser une minute. Je crois qu'il n'a encore jamais vu de neige. Ça te dirait de tenter l'aventure? Au-delà des cartes, on pourrait aller, toi et moi, là où personne n'est encore allé. Voir ce qu'il y a là-bas. T'en dis quoi, Buck?
Entre prise de vue réelle et animation, l'appel de la forêt, réalisé par Chris Sanders, à qui on doit la trilogie Dragon, ce sera au cinéma le 19 février.
Notez tout de suite dans vos agendas cette perspective de très très belle soirée, le tout au profit d'une grande cause. Le 2 décembre au Cirque d'Hiver à Paris, ce sera le 11e gala Solidarité Sida. Au programme, 20 artistes, des reprises de chansons iconiques. Rappelons que lors des précédentes éditions, les chanceux présents ont pu y apprécier Vanessa Paradis, Ayam, Mathieu Chédid, Célassou, Julien Doré, Patti Smith, Isia, Asaf Assidan ou encore Oxmo Puccino. Rappelons que tous les fonds récoltés permettent de financer 23 programmes d'aide aux malades, 20 programmes de prévention auprès de 40 associations dans 17 pays d'Afrique. Alors n'hésitez plus, réservez.
Et avis aux amateurs de Springsteen, je serais tentée de dire « Fuyez !» Mais comme j'ai très mauvais esprit, « Enjoy !» La reprise du jour vous est offerte par James Blunt. Si, si, j'insiste.
Les chats, c'est vraiment des branleurs.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Vous êtes malade.
Je suis en train de dégager.
Je vous ai prévenu.
Merci, Charline. Bien, dans la suite de Pop, 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 direction la Suisse. Eh oui, c'est ça, là aussi, la Suisse. Pour parler BD avec l'auteur Alex Baladi. Mais avant de se plonger...
Vraiment la vache Mika, quoi.
Ouais, dans l'ambiance suisse, allons en Zambie nous plonger dans l'univers de l'artiste Sampa The Great avec ce morceau Final Form.
With grace, baby, I can't afford to cover the course. Of course, maybe settle that one in court. Cause judging by the basics, y'all already comfortable, stuck up in the matrix. It's basic, patch credentials, but understand your favorite rapper peep my gold potential. I'm out of shame, been passive, trying to fit the circle cause I don't know how to act. Half of y'all was steady, insecure, don't try to backflip. Just because the seasoning and flow's already active. Only 4 years, fantastic, young veteran, new classic. Knock the walls off. The whole key, we gon' hinge the whole door off. I'm still AD, never forget it. It's life after death, roll the credits.
Say my feelings for you still exist.
Credit my maker, take a trip to see Jamaica. Molly spirit with the vapor, back to Zion, that's the nature. Africa, the new America, I hope I earn this permanent. And this, I put my pen in, they got my land and my permit with it. Bone on my bone, flesh of my flesh. Witness in me, you can't make me feel less. Let's hold. I'm not impressed, best mode, got my effort like an empress. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. First name Eve, somebody ate the food they told the great to never eat. I'm tripping, DNA sees like I'm born gray. I be mad 2 G's, third war win it, first war I dated. No mentor, all my heroes assassinated. We been here, we incarnated. Tryna finish what they started and we made it. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in
in my melanin. Great state I'm in. In all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in. In all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in. In all states I'm in. I might find a form in my melanin.
Final Form, c'est signé de la rappeuse Sampa The Great. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Ah, mais oui, c'est parce que vient de nous rejoindre le Suisse Alex Baladi. Oh là là, je suis désolé Alex, bonjour Alex Baladi.
Bonjour.
On n'avait pas dit qu'on arrêtait avec les accents?
Si, si, on arrête, on arrête. Alex Baladi, vous êtes Suisse, dessinateur, illustrateur, décorateur de théâtre et à l'écart des grands circuits de la BD traditionnelle. Depuis 25 ans, on retrouve votre travail, une cinquantaine d'albums au compteur quand même, chez des éditeurs alternatifs comme Drosophile ou Les Requins Marteaux, ou Atrabile, comme c'est le cas, pour votre nouvel album Robinson Suisse. Une BD totalement déjantée et allumée, qui bouscule absolument toutes les conventions classiques de la BD. D'ailleurs, est-ce qu'on peut encore parler de BD? Est-ce que c'est comme ça que vous définissez votre travail, vous?
Alors moi, je fais de la bande dessinée, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même quand je fais des expositions, je fais de la bande dessinée pour l'espace, parce qu'il m'arrive de faire des installations, et ça reste de la bande dessinée.
D'accord.
J'ai fait, par exemple... des drapeaux pirates géants, comme ça, en tissu. C'était des cases de bande dessinée qui racontaient une histoire.
Ça reste toujours de la bande dessinée. Enfin, en tous les cas, apparenté à la bande dessinée, même si vous jouez avec les formats.
Ouais. Alors, j'ai fait aussi un film d'animation avec Isabelle Nousra, qui est une cinéaste. Et là aussi, j'ai apporté quelque chose en tant que dessinateur. Il y a même des pop-up à l'intérieur, des choses comme ça.
D'accord. Ouais. Robinson Suisse, c'est étrangement au cœur de la pop culture, parce que ça a été à l'origine un roman d'aventure allemand, traduit par une Suissesse, ensuite une série télé canadienne, un dessin animé japonais. Mais vous, c'est par la série télé canadienne que vous avez découvert cette histoire de naufragé helvétique, alors que vous-même êtes suisse.
Ouais, à la télévision française, en 78. Ouais. En 78, et d'ailleurs, la plupart des Suisses que je rencontre qui connaissent les Robinson Suisses, les connaissent par cette série qu'ils regardaient à la télévision française.
Donc elle vous a marqué? Elle
m'a marqué parce que je suis suisse et que je sais...
Vous êtes naufragé.
Je sais qu'il n'y a pas de mer en Suisse. Donc moi, je me disais, c'est quoi ces Américains qui savent ce que c'est que la Suisse? Et en fait, bon, déjà c'était des Canadiens, mais en fait j'ai découvert, une fois que j'étais dans une bibliothèque à Paris, j'ai découvert par hasard le livre, Les Robinson Suisses, écrit par un pasteur bernois au début du 19e siècle.
Oui, mais alors attendez, parce que l'histoire n'est pas si simple que ça.
Non, parce que votre ouvrage, vous, c'est la suite du roman Le Robinson Suisse, écrit par Isabelle de Montolieu, qui était déjà une version expurgée de l'original.
Paraît-il, oui. Je ne sais pas à quel point, parce que je n'ai pas vraiment fait les...
Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi cette histoire-là, vous, en particulier?
Alors, moi, je n'avais pas encore lu le livre. Ouais. J'avais déjà fait une version qui s'appelait Les Gullivers Suisses, pour un site web, où j'avais imaginé, en fait, à partir de ce que je savais, enfin, c'est assez simple, c'est une famille suisse sur une île déserte. Et quand j'ai su qu'il y avait vraiment un livre, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant, mais c'était il y a des années de ça, c'était il y a 15 ans. J'ai fait des petites recherches il y a quelques années et j'ai su qu'il y avait une suite qui avait été écrite par la traductrice. Mmh. Du coup, je me suis dit, ah super, je vais faire que la suite, mais sans avoir rien lu. Et ensuite, donc j'ai lu cette suite et je me suis dit, c'est parfait.
Ouais. Mais c'est surtout que vous commencez à un chapitre qui n'est pas le numéro 1 en fait. Vous faites un peu comme vous voulez, vous prenez toutes les licences possibles et imaginables.
La suite commence au chapitre 37 et je me suis dit, je vais laisser passer 3 chapitres et commencer au chapitre 40. Parce qu'en plus, en chiffre romain, ça donne XL. Ouais, je trouvais ça bien.
Ouais, c'est beau.
Et j'aime bien ce chiffre. Donc,
et même là encore, vous avez pris quelques libertés, c'est moins qu'on puisse dire, avec le texte de cette malheureuse. Ouais. C'était une baronne, c'est ça?
C'était
une baronne, oui. Une baronne suisse.
Une baronne, d'ailleurs, il y a un quartier à Lausanne qui s'appelle Montolieu, enfin une rue Isabelle de Montolieu.
Et qu'on salue au passage.
Et oui. Et comme. Voilà, alors déjà, c'est un auteur qui est décédé il y a très longtemps, donc on peut prendre des libertés. Et par contre, j'ai suivi la structure des différents chapitres, j'ai juste rajouté un épilogue à la fin, mais j'ai vraiment raconté, je suis parti de ce qui est raconté en fait, dans tous les chapitres, et puis Petit à petit, il y a eu un petit glissement. J'ai dû changer quelque chose. Donc, j'ai rajouté...
Petit glissement, dites-vous. Très bien.
Petit glissement, ouais. Ouais, petit glissement. J'ai rajouté King Kong et Frankenstein.
Joli
voilà,
glissement.
Voilà. Petit glissement, ouais. un gros
Frankenstein,
glissement
qui est aussi suisse, finalement.
Oui, et puis qui est un contemporain, en fait, de cette
exactement.
Baronne. Enfin, Marie Shelley, pas Frankenstein. Bon, alors, à propos de liberté, vous avez choisi une narration totalement libre et éclatée, en utilisant toutes les techniques à votre disposition. Et au final, on a ce sentiment d'être dans une histoire rêvée, peuplée de sauvages menaçants. Comment est-ce que vous organisez un livre comme ça ?
Alors en fait, j'ai fait tout un dossier parce que j'ai demandé de l'argent pour faire ce projet.
Il en faut.
Ce qui fait que j'ai travaillé de manière un peu différente parce que c'est un dossier où il fallait faire une lettre de motivation, etc. Mais il fallait aussi faire un storyboard assez élaboré et 4 pages finies. Et donc, j'ai fait ces pages pour le dossier. Ensuite, j'ai laissé reposer ces pages pendant un certain temps, presque un an, je crois, parce que j'avais d'autres choses à faire. Mais ça a donné le ton de l'histoire. Je suis resté là-dessus. Parce qu'au départ, je voulais peut-être faire quelque chose d'un peu plus réaliste.
Ouais.
Il se trouve que je m'étais retrouvé sur un voilier en Indonésie. C'était un projet où ils envoyaient des dessinateurs faire des croquis sur un voilier.
Ouais.
C'est un beau projet. Pas mal du tout. Et donc j'avais fait des croquis d'îles indonésiennes et je m'étais dit ah ouais ça va être bien pour les romans en Suisse. Puis finalement je suis parti sur un truc où j'ai
qui n'avait rien à voir.
Voilà très graphique, pas du tout réaliste ouais. Ça fonctionnait mieux comme ça quoi. Mais c'est en le faisant que j'ai vraiment décidé de faire ça.
Vos personnages ont des physiques très particuliers. Par exemple, le père est inspiré du Guillaume Tell qu'on trouve sur les pièces de 5 francs suisses. La mère est assez forte et estropiée, ce dès le début de l'histoire. L'un des fils n'a pas de bouche. Qu'est-ce qu'on en déduit ? La perfection n'est pas de ce monde ou alors vous aimez particulièrement les personnages un peu abîmés ?
Alors le fils qui n'a pas de bouche, c'est parce qu'il ne parle pas.
Il y a une raison.
Il y a toujours une raison.
C'est toujours très étonnant à voir.
C'est toujours. Ça se fait beaucoup dans la bande dessinée japonaise en fait. Je trouve que ça marche assez bien.
Ouais.
La mère estropiée, c'est la baronne qui l'a estropiée. Alors ce serait très bizarre parce que c'est le seul personnage féminin et elle l'a rendu. C'est-à-dire que les fils et le père doivent tout faire pour elle parce qu'elle, elle est invalide.
Et même la représentation de ce que cette famille suisse se fait des sauvages n'est pas sans rappeler quelques personnages croisés dans d'autres bandes dessinées, signées Derrick, Maurice, Hergé. Qu'est-ce qu'il faut en déduire ?
Il faut en déduire
sur cette représentation du sauvage.
Que je me suis dit que j'allais plutôt partir des représentations dans la bande dessinée, plutôt que de reproduire des affiches un peu racistes qu'on peut trouver en Suisse. Pour montrer vraiment ce qui vient de mon milieu en tant que dessinateur et c'est ça que je voulais faire.
Pour finir, Alex Baladi, seriez-vous prêt à établir un lien plus ou moins direct, bien sûr, entre cette littérature du naufrage représentée par les Robinson Suisses et l'effondrement général qu'on nous annonce ?
Eh bien, pourquoi pas, oui. En fait, on peut faire différents liens avec ce qui se passe maintenant. Les Robinson Suisses, c'est aussi des naufragés,
des survivants,
donc on peut faire le lien aussi avec les migrants, etc. Ou la colonisation, parce qu'ils s'approprient cette île. Voilà, donc on peut faire plusieurs liens comme ça, mais c'est une fable un peu grotesque et colorée.
Et drôle.
Et très très drôle.
Et bien tant mieux.
Et en cas d'effondrement, la Suisse est-elle une île possible pour les naufragés que nous serons, peut-être ?
Eh bien, si vous me demandez à moi, je suis prêt à tous vous accueillir. Mais
tous les Français. Nous saurons nous en souvenir, Alex Baladi. Merci infiniment. Ça s'appelle Robinson Suisse. C'est aux éditions Atrabile. Et c'est un bouquin absolument épatant. Alex Baladi, on approche de la fin de l'émission. Et comme on est vendredi, je vais aller chercher le grand n'importe quoi, le magnéto d'Alexandre Véret. Mais venez avec moi, Alex. Je vais vous faire découvrir quelque chose. On va prendre mon ascenseur. Entrez. Vous ne trouvez pas qu'on se pèle un peu les miches en ce moment là ? Non ?
Un petit peu. Hein.
Ouais, un petit peu. Hein. L'hiver approche.
Je suis un peu malade.
Bah, attendez, j'ai une idée, vous allez voir. C'est sympa cette musique d'attente. On devra arriver rapidement. Ah, voilà. Venez. Regardez.
Oui.
Eh oui. C'est mon petit chalet de Gstaad. Ça vous plaît ?
Ouais.
J'en ai hérité de Johnny. Enfin, normalement, hein, parce que ça doit être jugé dans quelques semaines.
Voilà. Mais il y a plusieurs célébrités à Kstatt.
Oh, oui, oui, ouais. Il y en a plein. C'est pour ça que j'aime tant venir ici. Installez-vous près du feu.
Ouais.
Je vais vous faire un petit thé, Alex. Et pour l'instant, on va écouter le grand n'importe quoi, d'accord?
Ok.
Allez, c'est parti.
Ok, eh bien mon vieux, vous êtes viré du cours de claquette.
N'importe quoi.
Messieurs, le temps est venu de vous dire la vérité. Et la vérité, eh bien, c'est qu'en fait, nous n'avons jamais réussi à transformer une souris verte en escargot tout chaud. Ni en la trempant dans l'huile, ni en la trempant dans l'eau.
Enculé !
J'ai fait tantan sur des boîtes de cassoulet. J'ai fait tantan sur des bidons de lessive. J'ai fait tantan sur des brocolis. Et ensuite ils m'ont viré dans tout le marché. Aucun humour, les mecs, aucun.
Le grand n'importe quoi d'Alexandre Verrey, c'est chaque vendredi dans Pop Pop Pop. Tiens, pour terminer cette émission, un petit Billy Holiday serait tout à fait idéal. I'll be seeing you, par exemple.
In all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. The way the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well, I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you.
I'll be seeing you de Billy Holiday, c'est dans Pop 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 sur France Inter. Voilà, c'est ici que l'émission s'achève. Merci Alex Baladi, Robinson Suisse, c'est édité chez Atrabile. Et je rappelle que le nouveau Catherine Meurice de la Croix est édité, lui, chez Dargo. Deux livres absolument Pop Pop Pop. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Pierre Faucillon, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Lundi, on se retrouve pour un nouveau Pop Pop Pop. Et oui, c'est un scoop. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yup ou une Yuvesse à la pointe, suivez-nous plutôt comme disent ceux qui font des tutos suisses sur YouTube. Abonnez-vous à notre podcast.
Je suis sans voix.
Et suivez-nous sur les internets comme disent les millennials 3615 Pop 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 sur Instagram et Twitter.